RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est l'une des plus graves crises humanitaires que connaît le monde en ce moment. Depuis 3 mois, plus de 620 000 Rohingyas ont fui la Birmanie et essaient de survivre dans le Bangladesh voisin. Cette minorité musulmane, apatride et persécutée depuis des décennies, est aujourd'hui la cible d'une répression inédite de la part de l'armée birmane qui a incendié leur village, tué les hommes et violé les femmes. Après des jours de marche dans la jungle, les rescapés sont arrivés au sud du Bangladesh où ils luttent au quotidien dans des camps surbondés. Un grand nombre d'enfants est sévèrement mal nourri, les femmes violées essaient de se reconstruire et pendant ce temps, les autorités des deux pays peinent à trouver une solution pour un rapatriement. Les Rohingyas au Bangladesh, une crise humanitaire qui va durer. Grand reportage signé Sébastien Farsi.
C'est une petite maison plantée au milieu de Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés Rohingyas du sud du Bangladesh. Devant la petite porte, des femmes font la queue accompagnées de nombreux enfants. À l'intérieur, un espace d'une vingtaine de mètres carrés, 2 tables et une agitation importante. C'est ici que l'association Action contre la faim vient au secours des enfants les plus en danger, ceux qui souffrent de malnutrition sévère. Jinus Priyanka est l'infirmière responsable de cette structure. Son attitude bienveillante et son sourire amical rassurent les mères. L'une d'entre elles s'approche alors avec un bébé très maigre dans les bras. Pour évaluer son état, Jinus mesure la circonférence du biceps de l'enfant.
Regardez, son tour de bras est de 11,2 cm. Cela veut dire qu'il est très sévèrement mal nourri. Ce bébé est considéré mal nourri selon nos critères. C'est donc un cas très très compliqué. Il a été admis ici la semaine dernière. À ce moment, il pesait 5,6 kg pour une taille de 64,2 cm. Ses parents disent qu'il mange bien, mais nous allons voir.
5,6 kg pour un enfant de 11 mois, la situation est grave. L'enfant a la tête bien trop grande pour son corps frêle et ses yeux sont hagards. Un collègue de Jinus le prend alors délicatement dans les bras et le pose dans une grande balance. 5,5 kg, il n'a donc pas pris de poids. Le traitement met du temps à faire effet ou les parents n'arrivent pas à l'administrer assez régulièrement. Dans ces cas de malnutrition aiguë sévère, ACF fournit à la famille des sachets d'une poudre de suppléments nutritionnels à base d'arachides que les enfants doivent manger tous les jours. Cet aliment a l'avantage, par rapport au lait en poudre par exemple, de pouvoir être consommé par l'enfant sans l'aide de ses parents et surtout sans ajouter de l'eau de mauvaise qualité dans ces endroits. Ce petit centre suit ainsi plus de 650 enfants sévèrement mal nourris, un chiffre qui a doublé en un mois et ne cesse d'augmenter depuis l'arrivée de ces réfugiés Rohingyas il y a 3 mois. Jinus Priyanka d'ACF s'alarme.
Tous les jours, nous recevons entre 30 et 40 personnes dans le cadre de notre programme. Au début, quand les premiers sont arrivés au Bangladesh, nous avons fait un dépistage des plus vulnérables. Sur 100 enfants, 20 étaient sévèrement mal nourris, 40 modérément mal nourris et le reste était bien nourri. Maintenant, le taux de malnutrition sévère est monté à 60%. C'est donc un moment très, très dangereux que nous sommes en train de vivre.
Des dizaines d'ONG bangladaises et internationales sont déployées dans ces camps, en plus des nombreuses agences de l'ONU. Mais cela ne suffit pas, d'abord car la nourriture fournie à ces réfugiés est basique, surtout des patates et du riz. Mais surtout, la densité de population ici est incroyable, inhumaine. Plus de 620 000 Rohingyas sont arrivés en 3 mois sur cette dizaine de kilomètres carrés du sud du Bangladesh. Cela représente la plus rapide migration forcée au monde de ces dernières années. En comptant les réfugiés qui se trouvaient sur place avant le mois d'août, plus de 830 000 personnes sont maintenant entassées dans des conditions précaires et un millier continue à arriver chaque jour. Le manque d'hygiène est donc terrible et représente l'une des principales raisons de cette malnutrition. L'accès à l'eau saine est difficile et même les nouveaux puits creusés trop rapidement ne sont pas assez profonds. Ils sont donc souvent contaminés par les eaux usées. Cela entraîne de graves dysenteries qui empêchent les enfants d'absorber les aliments. Par chance, aucune épidémie de choléra n'a encore été déclarée grâce à une campagne de vaccination précoce. Mais l'espace manque cruellement et cela commence à créer des tensions. Nous sommes à l'entrée du camp de Baloukali 2 qui compte plus de 120 000 réfugiés. Sous une cabane en bois se trouve le bureau du Mazi, l'équivalent du maire local en charge de la sécurité et de l'administration de la zone. Soudain, un groupe d'hommes arrive effrayé, épuisé. Ils transportent un autre homme inconscient dans un drap.
Ils l'ont tapé car il voulait creuser un puits pour une nouvelle latrine. Et maintenant, regardez, il ne bouge plus.
L'espace et les latrines, voilà ce qui est le plus précieux en ce moment dans ces camps. Car au bout de 3 mois, les premières toilettes qui ont été creusées sont pleines et il faut maintenant en construire d'autres. Oui, mais où ? Nous suivons une partie des habitants qui ont emporté leur ami inconscient pour comprendre comment cet affrontement est né. Au bout d'un bon kilomètre de marche, nous arrivons à leur tente. Une femme, témoin de la bagarre, raconte.
Ce matin, deux hommes ont commencé à creuser un trou juste ici. Ils nous ont dit qu'ils devaient construire une nouvelle latrine. On leur a dit que ce n'était pas possible, c'est juste devant notre tente. Cela va sentir mauvais. Et notre sœur est enceinte. C'est très mauvais pour son hygiène. Mais ils ont dit que ce n'était pas notre terre. La tension est montée. Les hommes ont commencé à se bagarrer. D'un coup, l'un d'entre eux est tombé à terre. Il est resté inconscient.
Cette colère est compréhensible. En parlant avec ces femmes, nous sommes accroupis entre deux tentes. Les autres tentes, elles, sont à peine à 5 mètres plus haut. Et entre les deux, il y a déjà une latrine qui est quasiment pleine. Et à côté, devant l'entrée d'une tente, un trou et une pelle. C'est donc ici, dans cet espace déjà quasiment claustrophobique, que les autres Rohingyas étaient en train de creuser pour installer de nouvelles toilettes. Ce genre de dispute, c'est le Mazi qui doit les régler, entouré de différents conseillers. Ce représentant des Rohingyas impose des punitions symboliques, parfois pécuniaires, mais le but c'est d'éviter à tout prix d'envoyer les fautifs aux autorités bangladaises, solidarité oblige. Mais la situation devient maintenant difficile à gérer, avoue le Mazi de ce camp de Baloukali 2 qui s'appelle Araf Ulla. Ce jeune Rohingya, plus éduqué que la moyenne, remercie les autorités bangladaises et les ONG pour leur aide, mais reconnaît que ce n'est pas suffisant pour faire face à la crise actuelle.
Il y a énormément de violence dans ces camps, car ces Rohingyas ont tout abandonné dans l'Arakan, leur terre et tout ce qu'ils avaient. Leur esprit n'est donc pas en paix et tout malentendu prend de grandes proportions. Cette violence que vous voyez, c'est donc le reflet de la violence dont ils souffrent et qu'ils subissent encore au quotidien. 6 personnes doivent vivre dans des espaces à peine assez grands pour 4 personnes. C'est une forme de violence. La norme veut qu'une toilette soit utilisée par 5 familles. Mais ici, 20 familles doivent utiliser la même toilette. Cela est une autre forme de violence. En plus de cela, il n'y a pas d'électricité, ni assez de bois pour cuisiner. Puis il n'y a pas d'égout pour évacuer les eaux usées. Enfin, il faut réussir à avoir plus d'eau propre. Le gouvernement bangladais et les organisations ont construit beaucoup de puits, mais ils ne sont pas profonds. Quand les enfants et les femmes enceintes la boivent, ils tombent malades car il y a beaucoup de fer dans cette eau. Enfin, elle se mélange avec les eaux de surface et les eaux usées, car ces puits sont dangereusement près des toilettes.
Ce responsable Rohingya sait que leur situation n'est pas tenable à long terme. « Nous ne sommes pas sur notre terre », avoue-t-il. « Oui, mais où peuvent-ils aller ?» s'interroge Araf Ulla.
« J'avais tellement de terres en Birmanie, mais tout mon village de Mungdao a été brûlé. Deux de mes nièces et ma sœur ont également été brûlées vives dans leur maison. Qu'est-ce que nous pouvons y faire ? C'est notre malchance à nous, les apatrides. » Nous n'avons aucune dignité, aucun droit. Pas de droit à une maison, pas de droit pour les femmes enceintes, pas de droit à l'éducation ou à la santé, non. Tout nous est interdit.
Et vous pensez qu'ici, vous êtes un peu mieux ?
Ici, nous sommes des réfugiés. Ce n'est ni une vie d'humains, ni une vie d'animaux. C'est pire, c'est une vie de réfugiés.
Les atrocités perpétrées par l'armée birmane sont difficiles à rapporter avec précision, car ni l'ONU ni les journalistes indépendants n'ont été autorisés à se rendre librement dans l'état de l'Arakan depuis 3 mois. Cependant, les images satellites ont prouvé que des centaines de villages Rohingyas ont été brûlés et les nombreux témoignages de rescapés ainsi que les images ont attesté que des dizaines, voire des centaines de civils ont été brutalement assassinés. Et puis, il y a les crimes envers les femmes, des viols sauvages, cruels. Peu de survivantes osent encore en parler à cause du tabou qui entoure cet acte et du traumatisme dont elles souffrent, mais les premiers récits donnent froid dans le dos. Jasmine est l'une de ses victimes. Cette femme de 22 ans a le visage gracieux drapé dans un voile jaune dont elle replie nerveusement les franges quand elle parle. Elle vient de Tulatuli dans le district de Mangdao en Birmanie. Le 30 août dernier, les militaires birmans prennent ce village d'assaut. Jasmine raconte la suite d'une voix à peine audible.
Il était 8h du matin quand les militaires sont arrivés. Ils ont commencé par brûler les maisons de la partie nord du village et à tirer sur les gens. Dès qu'ils voyaient quelqu'un sortir, ils tiraient dessus. Les gens ont donc commencé à courir vers la rivière. Les militaires sont arrivés derrière, ils les ont encerclés et ont tiré sur tous les hommes de plus de 5 ans. Des femmes ont aussi été abattues, dont ma propre sœur. Puis ils m'ont emmenée, moi et d'autres femmes, vers un étang et nous ont obligés à nous agenouiller. Je me souviens qu'à ce moment, un hélicoptère n'arrêtait pas de nous survoler.
Les traits de Jasmine se crispent soudainement dans la pénombre de sa hutte faite de bambou et de bâches en plastique. Sa tête se baisse et ses mains commencent à trembler.
L'hélicoptère est parti. C'est alors que les militaires m'ont emmenée avec 4 autres femmes vers une maison en bois. Ils nous ont enfermés à l'intérieur. À ce moment, je portais encore mon bébé de 28 jours dans les bras. Ils me l'ont arraché des mains et l'ont jeté violemment contre le sol. Puis ils ont commencé à nous violer. Quand ils ont terminé, ils ont coupé la gorge des autres femmes. Et moi, ils m'ont violemment tapé derrière la tête. Je suis tombée inconsciente. Je me suis réveillée longtemps après. La maison était en feu et c'est alors que j'ai réussi à m'échapper.
Jasmine tourne la tête vers la droite et soulève ses cheveux. Au-dessus du cou, son cuir chevelu est balafré d'une énorme cicatrice. Ce cas est loin d'être unique. Human Rights Watch vient de publier un rapport qui identifie des dizaines de femmes Rohingyas violées en réunion par des militaires ou des miliciens. Pour l'ONG, cela ressemble à une pratique systématique pour terroriser les Rohingyas. Et beaucoup d'autres ont certainement souffert de la même cruauté, mais il est très difficile de trouver ces victimes dans les camps. Cela est pourtant urgent afin de les aider à retrouver leur équilibre psychologique. Farhana Ishita est la responsable du programme local de santé mentale dans l'association Action contre la faim qui propose des thérapies dans les camps. Elle réagit au cas de Jasmine.
Une telle expérience va créer d'immenses problèmes psychologiques pour la victime, depuis la dépression légère jusqu'à la dépression profonde. Je ne serais pas surprise si elle développe des psychoses comme la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Dans ce cas, elle devra prendre des médicaments pendant longtemps et nous voulons vraiment éviter cela.
Jasmine revit sans cesse cet épisode dramatique et peine à sortir de sa tente. La première chose qu'elle demande, c'est la justice. Oui, mais en Birmanie, l'armée dément toute violence envers ses civils. Dans ces attaques de villages Rohingyas, les familles ont donc été séparées, déchirées, et les enfants ont souvent perdu un parent, voire les deux. Dans le camp agité de Baloukali 2, une association américano-indienne de Sikhs, appelée United Sikh, a monté un local de tôle ondulée à côté d'un puits. À l'intérieur, plus de 200 orphelins apprennent à lire l'arabe et le Coran et reçoivent surtout 3 repas par jour. Parmi ces enfants se trouve le petit Ayoub, âgé de 8 ans. Sous sa calotte musulmane, ses grands yeux malicieux fixent chaque nouveau visiteur avec curiosité. Ce petit nous raconte, avec ses mots d'enfant, son histoire déjà tragique. Celle-ci commence vers la période de l'Aïd el-Kébir, début septembre.
Des gens sont arrivés dans le village. Ils ont tué mes parents. Ils leur ont tiré dessus. Je l'ai vu. J'ai donc suivi les villageois. Nous avons marché pendant 10 jours dans la jungle, puis nous avons traversé la rivière avec des bidons en plastique. J'ai vécu à Baloukali avec une dame, mais elle est toute seule. Alors depuis 7 jours, je dors ici.
La structure est basique et pendant la nuit, les enfants dorment dans cette grande salle, à même le sol. Et ce sont d'autres réfugiés bénévoles qui s'occupent d'eux au quotidien. Abdul Karim, la barbe blanche, est l'un des gérants de cet orphelinat.
Ces enfants sont tout seuls. Nous avons une responsabilité envers eux. Ils sont comme nos enfants, car ils représentent le futur des Rohingyas.
Selon les premiers résultats d'un recensement de l'ONU, plus d'un réfugié sur deux est un enfant et ils n'ont généralement aucun papier qui leur permettrait de faire valoir leur droit à un retour dans leur Birmanie natale. En attendant un éventuel rapatriement, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés cherche des moyens pour permettre à cette population de s'intégrer davantage dans la société locale et à sortir ainsi de l'isolement des camps. Louise Aubin, coordinatrice des opérations d'urgence du HCR, à l'antenne locale de Cox's Bazar, explique qu'il serait possible de financer des programmes d'éducation et de santé qui bénéficieraient également aux Bangladais.
Tout repose en fait sur les communautés locales du Bangladesh. Plus on les soutient, plus leur générosité peut s'étendre aux réfugiés à plus longue durée. L'opportunité, c'est de s'assurer que nos programmes humanitaires remplissent aussi les besoins des communautés locales, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, d'opportunités d'emploi, etc. Des programmes qui permettent aux communautés locales d'accueillir des réfugiés parmi eux, par exemple. Pour ce faire, il nous faut être très convaincants au niveau d'une analyse socio-économique pour leur permettre et les convaincre que quand les réfugiés partiront, ils partiront déjà plus sereins, mieux équipés en termes de connaissances, en termes de même de capacités, et les communautés locales resteront avec des équipements, des infrastructures qui seront à leur bénéfice. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Dans les années 90, on a soutenu des hôpitaux, des écoles, en doublant, en triplant leurs capacités, soit en construisant de nouvelles ailes pour pouvoir accueillir les réfugiés dans les années 90. Et quand les réfugiés se sont rapatriés, ces équipements, ces institutions sont toujours sur place. Est-ce qu'on peut faire plus? Je crois que oui.
Le risque en fait, que les autorités bangladaises vont présenter, c'est qu'en fait, ces personnes s'installent.
Pour l'instant, il est évident que les réfugiés ont peu de chances de retourner dans l'immédiat. C'est une réalité et c'est une réalité avec laquelle on peut composer. Donc, pour pouvoir envisager le futur, il nous faut entamer des discussions très concrètes sur les formes de persécution, les formes de discrimination qui maintenant datent depuis plusieurs décennies. Pour rétablir cette population dans tous ses droits, il nous faut adresser la question d'apatridie et il nous faut aussi envisager tous les droits dont doivent disposer les réfugiés, dont le droit à un retour en toute dignité, en toute sécurité et de manière volontaire. Pour qu'un retour soit durable, il va falloir que les causes profondes de la crise soient adressées.
Le 23 novembre dernier, le Bangladesh et la Birmanie ont signé un premier accord qui établit les bases d'un rapatriement des réfugiés Rohingyas sur leurs terres à partir de la fin janvier. Le processus se baserait sur le système établi en 1992 qui avait permis le retour de plus de 200 000 Rohingyas sur la base du volontariat. Mais le HCR avait alors dénoncé ce rapatriement car beaucoup de réfugiés avaient été forcés de rentrer. Considérant les violences qu'ils ont fuies, on peut imaginer que cette fois aussi, un grand nombre de Rohingyas ne voudront pas repartir de sitôt. Du reste, le puissant chef de l'armée birmane a donné des signes divergents. Il a affirmé que pour pouvoir rentrer, ces réfugiés doivent prouver leur citoyenneté birmane. Or, les Rohingyas n'ont plus le droit à cette nationalité depuis 35 ans. Les Rohingyas au Bangladesh, une crise humanitaire qui va durer. C'était un grand reportage de Sébastien Farcy, réalisation Pierre Chavanjon.